Avenue par Toufik Hakem. Cette semaine, je reçois
Michel Simon, critique et historien du cinéma.
Deuxième épisode, la critique est un sport de combat. Michel Simon, vous nous avez raconté lors du premier épisode comment vous êtes arrivé à publier votre premier article en 1963, mais surtout, vous nous avez raconté l'ambiance qu'il y avait, c'est-à-dire ce côté très politique, presque électrique qu'il y avait dans l'air. Et le cinéma, dans tout ça, il servait à quoi? Il servait aux uns et aux autres comme un tremplin pour s'exprimer, pour s'affirmer idéologiquement, où il y avait les deux? Une manière de parler de politique, mais aussi de l'esthétique des films.
Oui, je pense que, en fait, c'est vrai que ce n'était pas à travers le cinéma qu'on voulait affirmer nos positions politiques ou idéologiques. Mais en même temps, on en tenait compte. L'être humain, c'est un tout. On ne peut pas séparer uniquement le goût de l'art de ce qui se passe dans une époque particulièrement troublée, comme était l'époque de la guerre d'Algérie, puis du gaullisme. C'était évident que ça reflétait les films que l'on voyait. On avait à prendre position sur les films. C'est un peu ce qui a conduit Positif, à mon avis, à des erreurs, non pas historiques, mais des erreurs sur la nouvelle vague, à l'égard de certains cinéastes, comme Godard, par exemple, qui a été rejeté parce qu'il y avait toujours cette image d'un Godard de droite, etc. Et donc, on lisait les films de Godard sous un angle trop exclusivement politique. Et ça a conduit à des erreurs de jugement dont je n'étais pas trop responsable parce que je me suis très peu exprimé. Mais je crois que j'ai été le premier dans les années 60 au Festival de Venise à faire des réserves sur un film de Godard tout en disant du bien d'une femme mariée. Donc c'était presque sacrilège à Positif de défendre Godard. Donc je peux pas trop m'impliquer là-dedans, mais il y avait des gens comme de très grands critiques comme Louis Seguin et Benayoun, c'était un sport de combat comme vous le disiez tout à l'heure pour attaquer Godard, etc. Et c'est sûr qu'il y a peut-être eu certaines erreurs de jugement sur les premiers films de Chabrol, sur les premiers films de Godard, moins sur Truffaut qui a été estimé pour les films. De façon très aléatoire et très inégale. Il y a des films de Truffaut qu'on a défendus, d'autres qu'on n'a pas défendus. Mais tout cela s'est corrigé au fil des années. Romère et Chabrol, par exemple, sont devenus des cinéastes parmi les cinéastes préférés de Positif. Mais je pense que c'était inévitable que les jugements idéologiques, politiques, interviennent dans la critique de films.
Mais c'était primordial pour vous, à cette époque-là, c'est-à-dire les années 60?
Oui, par exemple, vous voyez, un film comme Voyage en Italie, de Rossellini, que Positif n'aimait pas parce que Rossellini avait été fasciste, il a été membre du parti mussolinien, il avait fait 3 films de propagande à la gloire de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine. Il y avait L'homme à la croix, qui était un film sur les aumôniers fascistes qui bénissaient les troupes allemandes sur le front contre les soviétiques. Donc, Positif n'aimait pas trop Monsieur Rossellini, et ils sont passés à côté de Voyage en Italie. Surtout parce que dans Voyage en Italie, la solution au malheur d'un couple, un couple qui se défait, George Sanders et Ingrid Bergman, voyage en Italie, et ils voient des femmes enceintes dans la rue, avec le ventre rebondi, et ils décident d'avoir un enfant qui va résoudre leurs problèmes. C'est-à-dire, c'est un film sur la maternité. Alors, comme ce film venait au moment où les femmes réclamaient le droit à l'avortement, Positif, évidemment, trouvait choquant que Rossellini intervienne en défendant la maternité. Donc, c'était une position, si vous voulez, très, très conservatrice. Alors, on a attaqué le voyage en Italie, ce qui est une erreur incontestable. Mais en même temps, je regrette un peu cette époque.
Pourquoi? Parce que les réunions entre journalistes étaient houleuses. Ça se passait comment, d'ailleurs? Est-ce qu'on se disputait? Est-ce qu'on passait beaucoup de temps à parler d'un film? Comment étaient attribuées les tâches aux uns aux autres pour critiquer tel ou tel film? Je parle de Positif, hein, des années 60, quand vous avez commencé.
Positif continue à fonctionner de la même façon. C'est-à-dire, d'abord, on est tous des bénévoles. Personne n'est payé, on va pas à Positif pour gagner de l'argent. Si on avait été payé, la revue serait arrêtée depuis très longtemps, il y aurait plus de 70 ans de Positif derrière nous. La deuxième chose, c'est qu'on se réunit le dimanche parce que justement tout le monde travaille les autres jours. Donc on a notre 5 à 7 à nous, qui est le dimanche après-midi, où on se réunit en comité de rédaction.
Et ça, depuis les années 60, vous faites la même chose ?
Oui, oui, toujours, depuis les années 50. Enfin, moi, je suis rentré en 63, mais ils ont toujours fait ça. C'est une revue lyonnaise au départ, qui est née à Lyon avec Bernard Charder, qui est toujours actif, qui est toujours vivant, qui a créé l'Institut Lumière. Et Bernard Charder, avec des copains de 22-23 ans, avait créé cette revue avant de partir en Algérie. Et évidemment, ils ont cédé la place à des gens qui restaient à Paris. Et ensuite, la revue a eu sa vitesse de croisière. Et les réunions étaient toujours le dimanche après-midi. Et on discute de tout ce qu'on a vu dans la semaine. On attribue les articles. À l'époque, on lisait les articles. C'est-à-dire, tout le monde... Moi, j'ai lu mes premiers articles devant le comité de rédaction, et qui approuvait ou non, en général, c'était approuvé pour la plupart des gens. Mais c'était tout de même très intéressant. Aujourd'hui, c'est plus possible parce que on a trop de pages à lire, il y a trop de collaborateurs, on est une revue beaucoup plus professionnelle, au sens qu'il y a beaucoup plus de rubriques, beaucoup plus de choses à discuter. Et je regrette un peu cette époque parce que le fait de lire un article devant 12 personnes très qualifiées fait que toutes les erreurs qu'il peut y avoir sont corrigées immédiatement. Donc c'est une sorte de secrétariat de rédaction collectif, ce qui est une...
Et ça passe par l'oralité.
Ça passe par l'oralité. Mais je sais que les gens, on était tous très intimidés. Plus tard, des gens comme Emmanuel Carrère, qui est le célèbre écrivain, est resté 15 ans à Positif. Il est entré quand il avait 19 ans. Et il raconte partout qu'il était très intimidé à lire ses articles devant un aréopage d'anciens critiques âgés de 40 ans, de 50 ans, lui qui avait 19 ans. Frédéric Vitoux, qui est à l'Académie française aujourd'hui, a commencé à Positif à 22-23 ans. Et c'est pareil, je veux dire, il devait lire ses articles au départ. Donc ça montre que Positif, on peut réussir à condition d'en sortir.
Déjà, à l'époque, il n'y avait que des hommes à Positif.
Non, il y avait des gens très remarquables. Il y a eu en particulier Michel Firk, qui était communiste dissidente et qui est partie en Amérique latine pour lutter...
Elles étaient minoritaires quand même.
Elles étaient minoritaires comme partout. Les femmes étaient minoritaires partout, c'était pas Positif seulement, c'était dans les grands journaux partout. Mais il y avait tout de même Michel Firk qui s'est suicidé au Nicaragua pour ne pas, quand la police est arrivée dans son appartement, pour ne pas parler sous la torture. Elle a préféré se tuer plutôt que de donner des noms sous la torture. Donc Michel Firk était très, très militante. Et puis il y avait ensuite Françoise Audet, qui était la femme de Jean-Pierre Jeancolas et qui venait de Jeune Cinéma et qui est une femme très, très talentueuse et qui est restée très longtemps à Positif et qui a beaucoup défendu les films des femmes, en particulier Agnès Varda.
Alors à cette époque, il va se passer plein de choses. D'abord, c'est la fin quand même de l'âge d'or des grands studios américains. Il commence à y avoir des cinématographies plus libres, plus indépendantes, des pays émergents. Comment, Michel Simon, comment vous placez dans ce contexte de grands changements, de grands bouleversements en réalité?
Écoutez, j'ai une très grande chance. Je suis venu dans la critique de cinéma, donc en 63, même un petit peu avant dans Cinémathèque, dont j'ai parlé, à une époque où le cinéma vivait, comme vous venez de le dire, de très grandes transformations. C'est comme la garde montante et la garde descendante de Carmel. Alors il y avait la garde descendante, c'était les grands metteurs en scène qui continuaient à être en activité, qui avaient marqué l'histoire du cinéma des années 40, des années 30, des années 50, et qu'on pouvait encore rencontrer, qui étaient encore actifs. Raoul Walsh, Howard Hawks, King Vidor, Minelli. Donc tous ces gens-là, pas Minelli mais les autres, j'ai pu les rencontrer et faire des entretiens avec eux. Il y a Kazan, évidemment.
Billy Wilder
et autres. Ceux-là, c'était eux qui représentaient le classicisme. Mais ils étaient encore très actifs. Certains, c'était leur dernier film, comme Walsh ou Hawks, mais pas Kazan, qui a continué dans les années 60, et Billy Wilder, et Cukor, etc. Bon, donc j'ai pu connaître, disons, la fin du classicisme et rencontrer tous ces gens-là, et voir leurs films. Et puis en même temps, c'était les années 60 et 70, ça a été le renouvellement total du cinéma mondial, avec des pays qui n'avaient jamais été attirés l'attention de la critique. Je pense à la Corée, je pense au Japon, à part Kurosawa, évidemment, quelques Japonais, mais très peu, Mizoguchi, Ozu, mais à part le Japon, Hong Kong, par exemple, était inconnu.
Le Brésil,
les pays de l'Est qui se sortaient du dégel, et qui, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Yougoslavie, la Pologne, tous ces pays se libéraient du carcan stalinien. La Russie elle-même, qui devenait un pays ouverte avec Khrouchtchev, etc. Donc il y a eu l'Amérique latine, comme vous l'avez dit, l'Asie également, Taïwan par exemple, avec également des grands cinéastes, les Allemands, Wim Wenders, Werner Herzog, etc. Donc j'ai pu rencontrer tous ces gens à leur début, Polanski et Skolimowski pour la Pologne, etc., qui sont d'ailleurs toujours en activité, c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, voir en même temps tous ces gens émerger avec un nouveau langage, avec des percées stylistiques, des sujets osés qui n'étaient jamais traités, comme la sexualité. En Italie, il y avait toujours Antonioni et Fellini et Visconti, mais il y avait, par exemple, Bertolucci et Bellocchio, puis plus tard Moretti, etc. Donc c'était vraiment très grisant. C'était la plus grande période du cinéma, je crois. Les années 60 et 70, c'était période exceptionnelle. Et tous les gens, et le Festival de Cannes a connu ses plus grandes heures. Il y avait tous les jours un chef-d'œuvre.
Vous nous disiez, dans le premier épisode, que lorsque vous étiez enfant, vous étiez attiré par les genres, par le genre de films que projetaient les salles de cinéma. À quel moment, la fameuse politique des auteurs, à quel moment elle s'impose dans votre analyse des films, Michel Simon ?
Écoutez, la politique des auteurs, moi, je n'utiliserai pas ce mot qui a été, enfin, vous l'utilisez à juste titre pour parler en général. La politique des auteurs est liée, à mon avis, plus au cahier. C'est-à-dire, il y a le mot politique. Politique des auteurs. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est politique ? Ça veut dire qu'un auteur ne se trompe jamais. C'est-à-dire, la politique des auteurs, c'est militant. Truffaut était militant. Il disait, un film de Jacques Becker sera toujours meilleur qu'un film de Henri Decoing, par exemple. Or, c'est faux. Ali Baba et les 40 voleurs est un moins bon film que La vérité sur Bébé Donge de Decoing, qui est un chef-d'œuvre. Bon, mais Decoing a fait moins de bons films, et Decoing n'est pas un auteur comme Jacques Becker.
Par exemple, ouais.
Voilà. Donc, moi, je serais pour la théorie des auteurs. Je suis pour la théorie des auteurs, ce que les Anglais, les Américains ont traduit. Ils disent pas « the politics of auteur », ils disent « the theory of the author theory », la théorie des auteurs. C'est-à-dire, pour moi, la théorie des auteurs, c'est effectivement de rechercher dans le cinéma commercial, chez les grands Américains, des metteurs en scène qui, même s'ils n'écrivent pas leur scénario, comme Hitchcock, sont en même temps des vrais auteurs. Ça ne veut pas dire pour autant que Hitchcock, jusqu'à la fin de sa vie, n'a fait que des chefs-d'œuvre. Les derniers films d'Hitchcock sont pas des grands films, comme Notorious ou comme La mort aux trousses ou comme Vertigo. Donc je me méfie un peu de cet absolutisme. Et je crois beaucoup plus à la théorie des auteurs qu'à la politique des auteurs.
Mais à quel moment, Michel Simon, vous vous dites « le metteur en scène, c'est lui qui fait le film ».
Eh bien, c'est quand je suis allé à la Cinémathèque et que je lisais les cahiers positifs, c'est-à-dire vers 1958, 57, 58, quand j'avais 20 ans.
Voilà.
C'est à ce moment-là que ça s'est formé et ça s'est concrétisé 5 ans plus tard, quand j'ai commencé à écrire faire de la critique.
Alors, vous avez parlé de ce grand bouleversement qu'il va y avoir dans le cinéma dans les années 60, mais si on revenait en France, là aussi, il y a un grand bouleversement avec la Nouvelle Vague, avec tout ce cinéma, l'âge d'or du cinéma pendant la guerre ou avant-guerre qui va être complètement réévalué avec ces nouveaux cinéastes, avec cette Nouvelle Vague. Vous vous situez comment dans ce débat entre les anciens et les nouveaux qui se rejoue, mais cette fois-ci, dans le monde du cinéma?
Alors, je me situe, ça va être une réponse de Normand, je me situe au milieu, c'est-à-dire que je suis pour le nouveau cinéma français, mais je suis contre l'exclusive des cahiers du cinéma à l'époque, contre un certain nombre de cinémas. Claude Sautet, Michel Deville, Jean-Paul Rapneau, Alain Cavalier, tous ces gens-là qui font des films en même temps que la Nouvelle Vague, sont très vite ostracisés par les cahiers pour défendre leurs camarades qui sont le fer de lance de la Nouvelle Vague, c'est-à-dire Godard, Truffaut, Chabrol, Romère, mais aussi des gens comme Claude de Givray, comme Luc Moulet, etc. Plus tard, André Téchiné, qui vient des cahiers. Nous, nous défendons des gens comme Claude Sautet, comme Michel Deville, comme Cavalier, comme Rapneau, qui sont pour nous des grands metteurs en scène, qui sont ostracisés, détestés, pour faire la place aux copains. Et ça, c'est inadmissible. Et de la même façon, vis-à-vis du passé, c'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout anti-Autant Lara. D'où c'est un merveilleux film d'Autant Lara. La Traversée de Paris est un film merveilleux d'Autant Lara. Les films de René Clair, par exemple, si on voit les films muets de René Clair ou les films des débuts du parlant, À nous la liberté, des films comme ça, ou même des films récents comme Les Belles de jour ou bien Les Grandes Manœuvres, c'est des très jolis films. Si on voit aujourd'hui, en même temps, Les Grandes Manœuvres, par exemple, avec Le Déjeuner sur l'herbe de Renoir, qui était défendu par les cahiers du cinéma, Renoir était un génie, René Clair était à vomir, on se rend compte que Les Grandes Manœuvres a beaucoup mieux vieilli que Le Déjeuner sur l'herbe. Les films de René Clair, comme La beauté du diable, sont des films remarquables. Renoir est évidemment un génie et le plus grand cinéaste français des années 30, mais René Clair est un très bon cinéaste. Donc, Positif se situe, encore une fois, de façon originale. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de René Clément, par exemple, qui a été vomi par la Nouvelle Vague. Monsieur Ripois est un chef-d'œuvre. C'est le plus grand film de Gérard Philippe. C'est tourné dans les rues de Londres, avant À bout de souffle, 4 ans avant Bout de souffle, en caméra cachée. La caméra est dans une petite voiture. Elle suit Gérard Philippe dans les rues de Londres, comme Godard, dans À bout de souffle, suit Belmondo, 4 ans avant. Et Monsieur Ripois est un film d'une modernité incroyable. Et Plein Soleil est un très beau film. Et Jeux interdits est un très beau film. Donc, Positif sélectionne aussi les films anciens. Il ne s'agit pas de défendre le cinéma de papa. Il s'agit de dire on n'enterre pas Autant Lara, Clouzot, Clément et tous ces gens-là, et René Clair.
Vous oubliez Julien Duvivier.
Duvivier, évidemment, après Renoir, est le plus grand cinéaste. Peut-être le plus grand cinéaste français des années 30.
Pourquoi après Renoir? Enfin, c'est votre avis.
Oui, je pense que Renoir, les années 30 de Renoir, c'est des chefs-d'œuvre absolus. Mais Duvivier a fait des films admirables.
On est d'accord.
Et Positif a fait des dossiers sur Duvivier. Et Truffaut, finalement, quand il est devenu metteur en scène, n'a cessé d'écrire du bien de ces metteurs en scène-là. Il a écrit une lettre à Duvivier, il a écrit un article que j'ai retrouvé dans Art, à l'époque, qui disait que Nous sommes tous des assassins est un très grand film. Donc tout ça est beaucoup. Romère aimait Carné. Alors ce sont les suiveurs qui ont beaucoup nuit à la réputation de Carné, de Duvivier et tout ça, parce que les suiveurs ont repris les attaques de Truffaut en se rendant pas compte que Romère, Truffaut et d'autres, à part Rivette peut-être, qui était très, très exclusif, étaient capables d'aimer aussi les films de cette génération.
Et de réévaluer des films. Est-ce que ça vous est arrivé, Michel Simon, de réévaluer un film, c'est-à-dire de vous dire que vous avez été très dur avec tel film à telle époque, ou au contraire, un peu trop enthousiaste pour un film qui n'a pas résisté au temps?
Écoutez, j'ai regretté très vite sur un film de Dreyer, parce que j'avais une très grande admiration pour Dreyer, et j'avais vu Gertrude, son dernier film, dans des conditions épouvantables, dans une petite salle pour la presse au Quartier Latin, en présence de Dreyer, où tout le monde a commencé à rire aux éclats à partir de 10 minutes, un quart d'heure. Le film était très lent, très très méditatif, et la séance était complètement gâchée. Et j'ai pas aimé ce film, je dois reconnaître. Et je l'ai revu 3 mois plus tard au Festival de Venise, avec une salle très respectueuse, et j'ai pu apprécier vraiment Gertrude. Donc ça m'est arrivé quelques fois, mais pas vraiment. Je dois dire, si on regarde mes critiques de l'époque, il y a peu d'articles où je pense comment j'ai pu passer à côté de films comme ça, de chefs-d'œuvre.
Elle ressemblait quoi, la vie entre critiques? On est toujours dans les années 60, avant 1968. Est-ce que vous vous retrouviez entre vous? Est-ce que il y avait des familles, la famille Positif, la famille Cahiers du cinéma? Est-ce qu'il y avait des projections pour la presse à cette époque? Est-ce que...
Oui, il y avait des projections, mais beaucoup plus de projections corporatistes. C'est-à-dire que toute la presse voyait les films ensemble le matin, dans une grande salle des Champs-Élysées ou à l'Empire Cinérama, etc. Et puis tout de même, à partir des années 60, 63, 64, Pierre Rissian et Bertrand Tavernier, qui étaient à l'époque attachés de presse ensemble, ont vraiment développé le métier de l'attaché de presse. D'abord parce qu'ils étaient très passionnés, ils étaient très convaincants. Ils coinçaient les critiques à la sortie des projections pour vendre leurs films, avec beaucoup d'arguments très cinéphiliques, très intelligents. Parfois, le metteur en scène était là, donc on était un peu très gênés parce que on vous présentait le metteur en scène, il fallait tout de suite lui dire votre opinion. Donc, ils ont vraiment beaucoup influencé la sortie des films. Et puis après, dans les années 70, c'est devenu la tradition de grands attachés de presse, très cinéphiles. C'est très différent aujourd'hui, mais à l'époque, les attachés de presse, c'était vraiment des critiques souvent cinéphiles.
Mais les critiques sont obligés de défendre un film. Ils ne sont pas libres, je veux dire, Michel Simon, non ?
Pas dans le cas des revues. On se fait beaucoup d'idées sur l'antagonisme, parce que l'antagonisme était souvent par écrit. Moi, je parlais tout le temps, quand j'allais à la Cinémathèque ou au studio Parnasse, après la projection, on se retrouvait sur le trottoir, et on parlait, par exemple, avec Rivette, régulièrement des films. On discutait, on était d'accord, pas d'accord. Au Festival de Berlin, je prenais mes petits déjeuners avec Serge Danet, et on discutait des films. Et en plus, il aimait beaucoup le tennis comme moi, donc on parlait de tennis. Donc, avec Danet, on avait des discussions de cinéphiles, etc. D'ailleurs, il a dit plusieurs fois du bien de Tailleur. Godard disait du bien de Tailleur dans Positif. Godard avait tenu son journal, je me rappelle, en 66 dans les cahiers, et il disait, le magnifique article de Tailleur sur Détective privé de Jack Smite, pourquoi on n'écrit plus des articles de cette qualité dans les cahiers? Il écrivait ça dans les cahiers. Il a une grande admiration pour Tailleur. Truffaut a fait venir Tailleur pour écrire dans Art. Voilà, donc Tailleur écrivait à la recommandation de Truffaut dans Art. Donc tout ça est un peu au Festival de Cannes, sur la plage, Adoukirou et Truffaut parlaient ensemble. Chabrol et Truffaut parlaient ensemble. Chabrol et Kirou parlaient ensemble. Donc on a beaucoup exagéré cet antagonisme, parce que ce qui les reliait, c'était tout de même l'amour du cinéma.
Enfin, l'arrivée de la télévision, est-ce qu'elle va changer quelque chose dans ce milieu-là, le milieu du cinéma, des critiques de films? Est-ce que l'antagonisme, la salle de cinéma, VS, le petit écran, va créer de nouvelles dissensions, comme on a pu le voir dans le film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood?
Je ne crois pas en France, vraiment. Je pense que...
Vous l'avez eu, la télévision, très vite, Michel Simon, par exemple?
J'ai eu la télévision chez mes parents, déjà. Oui.
Et vous voyez des films à la télé?
Très peu.
Pourquoi?
Parce que je trouve que la télévision est réductrice. Je veux dire, c'est évident qu'un film doit être vu pour grand écran. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est heureux quand les gens voient les films à la télévision, parce que souvent, ils regardent sur le portable. Donc, il y a une dégradation telle du jugement esthétique. Pourquoi les gens ne parlent plus du cadrage, par exemple? Parce que le cadrage n'existe qu'au cinéma, véritablement. La beauté de l'image n'existe que sur grand écran. Quand vous le regardez sur un téléphone portable, vous ne pouvez pas apprécier vraiment les cadrages, ni même la lumière.
Mais chaque support ramène avec lui aussi une manière de concevoir une œuvre artistique. La télévision elle-même a ramené avec elle ses codes.
Je trouve que c'est plutôt le DVD ou le Blu-ray qui a changé les choses, parce qu'on peut faire l'arrêt sur image, parce qu'on peut revenir en arrière, on peut regarder une séquence, revenir sur une séquence, etc. La critique aujourd'hui a sans doute évolué, surtout la critique historienne, la critique qui parle du passé, parce qu'il y a une façon de pouvoir se documenter très vite. On ne ferait plus les erreurs qu'il y avait à l'époque où des gens, même des gens comme Jean Mitry, qui était un extraordinaire historien, inventaient des fins de films. Par exemple, il a vu une fin de « Des raisins de la colère » qui n'existe pas dans « Les raisins de la colère ».
Pourquoi il s'est endormi pendant la projection?
Non, il a dû lire le roman et il a cru que c'était dans le film, mais c'était pas dans le film.
Ça, c'est venu avec le magnétoscope, les cassettes VHS.
Je dirais plutôt que c'est le VHS, le magnétoscope, etc., qui ont changé l'étude des films.
Ouais, mais depuis la télévision, des cinéastes qui venaient du monde du cinéma, et pas les moindres, se sont aussi confrontés à ce nouveau médium. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, vous connaissez de grands metteurs en scène qui sont passés à la réalisation de séries. Vous les suivez, Michel Simon. Qu'est-ce que la télévision va ramener? Qu'est-ce que ce format, sortir de la salle de cinéma, est-ce que ça tue le cinéma? Non, pas forcément. C'est quoi votre avis?
Écoutez, moi j'ai mon opinion sur les séries, qui est de dire que effectivement il y a de très belles séries, mais que la série jamais ne concurrencera le cinéma. Il ne peut pas parce que ce sont les producteurs finalement qui contrôlent les séries. Par exemple, pour prendre une réalisatrice que j'admire profondément, sur laquelle j'ai écrit un livre, qui est Jane Campion, Top of the Lake, par exemple, 3 épisodes sont dirigés par elle. 3 épisodes dirigés par quelqu'un d'autre. Elle a écrit le scénario, d'accord, mais elle n'a pas dirigé les 3 épisodes. Or, il n'y a aucune différence visible entre les 6 épisodes. Si vous demandez à Wells de faire la première demi-heure, ou la première trois quarts d'heure de Citizen Kane, et de confier la deuxième partie de Citizen Kane à un autre metteur en scène, même s'il a écrit le scénario avec son scénariste, Herman Mankiewicz, vous verrez une différence. Le style d'Orson Welles ne peut pas être imité dans la deuxième partie, sinon l'autre est Orson Welles. Donc, ça montre déjà que la deuxième partie de les épisodes de Top of the Lake ne sont pas dirigés par Jane Campion, alors qu'ils sont les mêmes que ceux dirigés par Jane Campion. Donc, je pense que c'est le travail collectif général des scénaristes, des meneurs de jeu, de ceux qui produisent des films. Et c'est pour ça que peut-être, à part Twin Peaks, qui est un film entièrement réalisé, la première série, entièrement réalisé par David Lynch, c'est un vrai film de David Lynch, qui a été d'ailleurs pas un tel succès au point de vue du grand public, parce que les séries sont faites pour être vues par des millions de gens, et que Hiroshima Mon Amour, vous le faites pas en série. Vous faites pas Citizen Kane en série, vous faites pas Le Cuirassé Potemkin en série. C'est impossible.
Pour terminer ce deuxième épisode, Michel Simon, je voulais vous poser la question sur votre rapport à cette passion cinéma. Est-ce que cette passion, aujourd'hui, après près de 60 ans de carrière, est la même? Elle n'a jamais connu des bas, des hauts, des crises? Vous avez toujours aimé aller voir des films, parler des films, écrire sur les films?
Elle est toujours la même, et je suis même épaté qu'après avoir vu tant de chefs-d'œuvre pendant toute ma vie, je puisse être à même d'accepter les films nouveaux qui sont pour moi éblouissants, et chaque année de trouver 3 ou 4 films par an qui sont des films absolument admirables.
Et bien demain, dans le 3e épisode, on verra comment votre passion pour le cinéma a dû résister face aux pressions de l'industrie, parce que c'est une industrie, le cinéma. À demain, Michel Simon.
À demain.
C'était Avenue avec Michel Simon, 2e épisode, réalisation June Lepère, prise de son Yvan Turc, chargé de programme Daphné Abgral, coordination Florian Delorme, une série de Toufik Hakem à réécouter et à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.